Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate. C'est bientôt les vacances de Noël, chouette alors, on va se reposer, on va tous prendre 20 kilos, ça va être trop bien. C'est l'heure du podcast des maternelles, podcast France Télévisions bien sûr. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui un sujet comme il est bien, comme il fait du bien de l'entendre. Le thème de cette émission, le thème de ce podcast, c'est le bébé miracle que je n'attendais plus. Voilà, imaginez le bébé miracle que je n'attendais plus. Pendant des années, on attend un bébé, on n'y croit plus, et finalement le bébé arrive. Si ça, c'est pas la magie de Noël, si ça, c'est pas une émission et un témoignage qui fait du bien, on écoute ce témoignage, puis nous serons avec une psy, avec Florence Devoyy, derrière, parce que quand même, ça pose des questions, ces témoignages comme ceux-là, c'est parti.
Alors selon certaines études, 29% des couples en parcours PMA ont des chances de concevoir un enfant naturellement. Alors ça peut paraître fou quand les années passent et que les couples enchaînent les protocoles sans voir une grossesse arriver. Mais Cécile, c'est pourtant ce qui vous est arrivé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez fait 10 ans d'essais, plus de 6 ans de PMA et puis vous êtes tombée enceinte naturellement alors que vous étiez finalement résolue avec votre conjoint au fait que vous n'auriez pas d'enfant. Quoi. Vous vous êtes dit bon ben voilà, ce sera ma vie et puis c'est tout. Aujourd'hui, vous êtes la maman comblée de Clément qui a 2 ans et donc vous allez nous raconter cette belle histoire. Alors, vous qui n'a pas toujours été facile, hein, il faut quand même le dire. Vous rencontrez votre mari à l'âge de 26 ans, vous vous mariez la semaine de vos 30 ans et tous les deux, vous vous lancez naturellement dans un projet bébé. Mais tout ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Racontez-moi ça.
Oui, donc on se lance dans un projet bébé directement après le mariage et 3 mois après, on part en voyage de noces. Et au retour du voyage de noces, j'ai du retard et je me dis, incroyable, ça a marché tout de suite. Mais non, en fait, voilà, c'était juste un cycle très long. Et je consulte ma gynéco de l'époque qui me dit, mais ne vous faites pas de soucis, c'est normal, le temps que les cycles se remettent en route après une contraception de plusieurs années. Laissez-vous un petit peu de temps et revenez dans 6 mois si vous ne tombez toujours pas enceinte. Donc 6 mois après, j'y retourne. Et là, elle me fait un examen un petit peu plus poussé. Et elle m'annonce que je serai atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc elle me fait faire d'autres examens pour confirmer le diagnostic. Et quelques jours après, je reçois un courrier de sa part qui m'annonce qu'elle ne peut rien faire contre mon infertilité et qu'elle m'envoie à la PMA.
Ah, déjà, il y a le mot infertilité voilà. Qu'on se prend. Hein, quand même.
Infertilité PMA, donc c'est un premier choc parce qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir concevoir d'enfant naturellement.
Alors après 6 mois d'attente, vous êtes entrée dans un parcours PMA avec tout ce qui va avec, les stimulations ovariennes et tout. Et forcément, quand on entend les témoignages des couples, ce qui est le plus difficile à vivre en dehors des hormones, c'est le fait que tout soit programmé. Comment vous avez vécu ça avec votre conjoint?
Alors au départ, on était assez optimiste parce que les médecins nous disaient qu'on était jeunes, on avait 31 ans, donc voilà, il y avait des solutions possibles. Mais effectivement, après, on découvre les joies de la PMA avec ses stimulations, ses rapports programmés. Donc, un manque de spontanéité, c'est assez éprouvant pour le couple, en effet.
Bien sûr. Et alors, vous avez essayé, vous avez fait des inséminations.
Voilà.
Vous avez fait, comme ça n'a pas fonctionné, vous êtes passé au FIV, donc les fécondations in vitro. Seule une des 3 FIV va donner un embryon. Mmh. On va vous l'implanter. Il ne tient pas. Ça dure 6 ans, ce parcours PMA. Ouais. Donc, on imagine à quel point vous deviez être épuisée après ça.
Oui, complètement. En fait,
puis désespéré.
Voilà, désespéré, parce qu'on perd confiance. Hein, on est plein d'espoir en début de parcours, et puis les échecs sont de plus en plus difficiles à encaisser. Donc, c'est assez éprouvant. Et puis, j'en ai marre. Je suis épuisée physiquement, psychologiquement, par tous ces traitements. Donc, on décide de tout arrêter. Mmh. Je jette tout ce qui me reste à la maison, ouais. Qui me fait penser à la PMA. Je ne veux plus en entendre parler.
Vous, les médecins, vous disaient quoi? Ils vous laissaient de l'espoir quand même ou
oui,
pas?
Mais alors, c'est vrai qu'on avait enchaîné pendant 6 ans, hein, vraiment, sans faire de pause. Donc, ils nous disaient, mais faites une pause et laissez-vous un petit peu de temps. Et moi, enfin, non, on ne voulait plus. J'avais fait des hyperstimulations en plus. Donc, je mettais quand même ma santé en danger. Et mon mari a dit...
C'est ça. Alors en janvier 2016, donc vous vous résignez, vous dites oui. Voilà, moi j'aurai pas d'enfant. Et vous avez un retard de règles, vous avez des fortes douleurs abdominales en même temps que ce retard. Donc vous consultez une gynécologue qui vous dit bah, faites quand même un test de grossesse.
Voilà, elle me dit faites un test de grossesse. Donc j'en avais un sacré stock hein, depuis toutes ces années. J'en fais un qui était périmé, qui est négatif. Mais elle me prescrit quand même la prise de sang. Et elle m'appelle quelques heures après, c'était un vendredi en fin de journée, j'étais au travail et elle m'annonce que c'est positif. Donc là, c'était, Enfin, tout s'effondre, enfin, tout s'écroule. On se dit, mais c'est pas possible. Je suis en train de me dire que je peux pas avoir d'enfant. Et en fait, ça arrive. Comment ça se fait? Il suffisait finalement juste de lâcher un peu prise. Malheureusement, on n'a pas le temps de se réjouir longtemps, puisque 3 jours après, je ferai une fausse couche à 5 semaines d'aménorrhée.
Là, c'est l'ascenseur émotionnel pour vous. C'est terrible.
Clairement, oui.
C'est-à-dire que vous résignez, puis tout à coup, vous avez de l'espoir. Et puis 3 jours après, c'est de nouveau une déception. Ça a dû être terrible à vivre.
Ça a été compliqué, parce qu'en plus, je culpabilisais de me dire... t'as déjà beaucoup de mal à tomber enceinte, et quand ça arrive enfin, tu gardes même pas le bébé. Donc voilà, c'était difficile.
Alors après cette nouvelle épreuve, vous avez des tantes qui vous disent « Mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas un petit peu les médecines douces, les médecines parallèles ?»
Alors voilà, j'ai une de mes tantes qui me parle d'une cure thermale à Salis de Berne, qui est spécialisée dans l'infertilité. Elle me dit « Écoute, faudrait que tu essayes. » Et je me dis « Ça pourrait pas me faire de mal, ces 3 semaines, ça peut être ressourçant, reposant, vu toutes les épreuves qu'on a traversées, pourquoi pas ?» Donc on y va, et effectivement, je tombe sur une équipe vraiment formidable, très humaine, et je fais des rencontres avec des femmes qui vivent le même parcours, donc c'est vrai qu'on se comprend tout de suite, on échange énormément, ça fait beaucoup de bien. C'est une vraie parenthèse dans ce parcours.
Mais qui n'a rien donné après.
Voilà, donc généralement, les effets sont censés être actifs sur 6 mois, et moi, 6 mois après, toujours rien.
Alors après, vous avez essayé l'acupuncture.
Voilà, donc je voyais une acupunctrice à Dijon depuis quelques mois qui m'aidait à lâcher prise, justement. Et puis, justement, avec les filles que j'avais rencontrées à la cure, on parlait beaucoup des médecines douces, un peu, voilà. Cette même tante qui m'avait parlé de la cure me parle d'un acupuncteur à Paris qui est spécialisé dans l'infertilité et qui ferait des miracles. Donc, au début, je suis plutôt sceptique et puis... voilà, j'approche de la quarantaine, j'ai pas envie de regretter à 45 ans de ne pas avoir tout essayé, donc je viens à Paris pour voir ce médecin.
Alors la secrétaire vous dit quand même quelque chose d'assez chouette en partant.
Oui, bah déjà dans sa salle d'attente, son placard est plein de faire-part de naissance, et elle me dit, mais de toute façon, la prochaine fois que vous reviendrez, vous serez enceinte.
Ouais, ouais. Je suis assez sceptique. Vous y croyez quand elle vous dit ça?
On a envie d'y croire, mais en même temps, on se protège parce que voilà.
Avec tout ce que vous étiez payé,
c'est ça,
c'est sûr. Alors, vous approchez de vos 10 ans de mariage, vous dites, vous approchez de votre quarantaine aussi, et là, vous vous dites, bon, je vais me reprendre en main physiquement, je vais m'occuper de moi.
Oui, parce que donc je suis suivie par une endocrino, parce que les OPK, ça a des incidences aussi sur le diabète, et elle m'annonce que je suis à la limite du diabète.
Alors, OPK, c'est ovaire polykystique, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Ce qu'on vous a diagnostiqué
tout à fait.
Au début.
Et donc, elle me dit, si vous devenez diabétique, après, ça sera irréversible. Donc là, j'ai un électrochoc. Voilà, j'ai pas envie de me passer de pâtisserie. Et du coup, je me reprends en main et je marche beaucoup. Je fais attention à mon alimentation et j'arrive à faire baisser le taux de glycémie. Donc, je suis assez contente. Et puis donc, parallèlement, effectivement, un an plus tard, ça sera nos 40 ans et nos 10 ans de mariage. Et on s'était promis de retourner aux Seychelles pour nos 10 ans de mariage. Donc, je me lance à fond dans ce projet de voyage et on réserve même ce voyage.
Voilà. Et quelques semaines, justement, après être allé voir cet acupuncteur avec la secrétaire qui vous dit « Ah tiens, la prochaine fois que tu viens, que vous venez, pardon, vous serez enceinte », vous ressentez un petit peu les mêmes symptômes que la dernière fois, c'est-à-dire que vous avez des fortes douleurs abdominales.
Oui.
Donc là, qu'est-ce que vous vous dites?
Alors là, je vais directement voir ma gynéco. Et elle me fait une échographie, elle ne voit rien. Elle me dit « Non, je ne vois pas ni les règles qui arrivent, ni une potentielle grossesse. Elle voit juste un petit point, mais qui pourrait être le reste d'un follicule. »
Donc là, évidemment, comme vous avez les mêmes douleurs abdominales que la dernière fois, vous vous dites, j'imagine, que vous faites une fausse couche.
Moi, je suis persuadée de faire une fausse couche. Donc j'angoisse énormément. Et puis, ma gynéco m'appelle et me dit, mais là, le taux bêta-HCG est positif.
Vous avez fait une prise de sang?
Elle m'avait fait une prise de sang, voilà, pour confirmer. Et elle me dit, en plus, c'est un taux qui est très haut, contrairement à 3 ans auparavant, où voilà, le taux était plutôt bas.
Et alors, donc ça sent la bonne grossesse.
Oui, alors mon mari, lui, est persuadé que ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit, mais cette fois-ci, ça va fonctionner. Et alors on calcule et on se dit, on est en février, donc novembre. Ah mais oui, mais on devait partir en voyage. Et puis en fait, voilà, c'est vraiment un bouleversement parce qu'on s'y attendait tellement plus. On s'était préparé à une vie sans enfant et là, tout est remis en question.
Vous n'avez pas vraiment réussi à vous réjouir?
Pas tout de suite, non. Puis en plus, voilà, j'ai eu un petit épisode...
Oui, alors en plus, oui, c'est vrai que vous avez eu une petite frayeur après.
Voilà.
C'était quoi, 8 semaines après le test de grossesse?
Oui, la prise j'ai eu un décollement de placenta, donc j'ignorais que ça pouvait arriver. Et c'est vrai que j'ai eu assez peur, donc j'ai réussi à me réjouir en fait à 5-6 mois de grossesse.
Là, vous avez dit quand même, hein, C'est bien parti, quoi.
Bien parti. Et puis mon mari me disait, il faut que tu t'épanouisses parce que ça sera certainement la seule et unique. Donc, profites-en.
Bon, alors, bah, on vous voit enceinte, là. Vous êtes absolument sublime. Alors, c'est vrai que vous êtes restée anxieuse. Vous faites du diabète gestationnel aussi. Donc, j'imagine que ça ne vous a pas vraiment aidé. On vous a déclenché 15 jours avant le terme. Et donc, 15 jours avant vos 40 ans, vous êtes devenue maman d'un petit Clément. Comment ça s'est passé, la rencontre? Comment ça se passe quand on attend aussi longtemps un bébé?
Bah, je pense que c'est de toute façon émouvant, mais là encore plus, et puis irréel presque. C'est vrai que c'était magnifique. En plus, l'accouchement s'est bien passé. J'ai pu l'allaiter, donc on a vraiment créé un lien tout de suite.
Vous êtes sentie mère tout de suite ou vous avez eu du mal à réaliser?
Oui, j'ai eu un peu de mal à réaliser. J'ai fait un baby blues comme beaucoup de mamans, mais là, je pense que c'était accentué par le fait que je m'attendais tellement plus à devenir maman que j'avais l'impression d'être un peu dans un rêve. Voilà, ça a duré quelques jours, mais après, on a tout de suite pris nos marques. Et,
Alors, il a 2 ans aujourd'hui.
Il a 2 ans,
oui. Clément, comment ça se passe? Il y a le terrible tout là, qui arrive un peu.
Ah oui, on est dedans.
Ah oui, ça c'est sûr que bon, on veut un bébé, on veut un bébé, puis après, voilà. On se dit, on a pris pour perpète maintenant, quoi.
Non mais voilà, ça se passe très bien. Donc après, on a conscience de notre chance, on a une chance énorme, d'avoir eu ce bébé. Et puis, on veut surtout pas tout lui céder parce que c'est un enfant miracle. Voilà, on essaye quand même de faire attention à ça.
Bonjour Florence de Wailly.
Bonjour Agathe.
Merci beaucoup d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes psychologue, psychanalyste à la maternité du Centre Hospitalier de Versailles. Alors on a beaucoup de questions sur l'infertilité évidemment. En 6 ans d'émission, on a eu, vous imaginez bien, énormément de témoignages de couples en parcours PMA ou de couples qui étaient dans des parcours d'adoption. Et puis tout à coup, la maman tombait enceinte, comme Cécile. Comment ça s'explique?
Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la grossesse, c'est vraiment un processus somatopsychique, c'est-à-dire que ça se passe dans le corps et puis aussi dans la tête. C'est extrêmement complexe et à chaque étape, il peut y avoir un échec ou il peut y avoir une réussite. Moi, je dis souvent que le début d'une grossesse jusqu'à l'arrivée et la naissance d'un bébé en bonne santé, c'est quand même un petit peu miraculeux. Mmh. Et on croit quand même qu'avec le développement des techniques, etc., la PMA en particulier, qu'on va tout maîtriser, qu'on va tout contrôler, toutes les étapes. Et en fait, c'est pas vrai. D'ailleurs, les taux de réussite de PMA ne sont pas non plus extraordinaires. C'est 30-35% de réussite. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas extraordinaire. Et donc, voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Et il y a des moments, alors, il ne faut pas faire de généralité, mais il y a des moments où, quand la femme n'en peut plus, quand le couple dit, voilà, c'est trop long, c'est trop difficile, il y a trop de souffrance, on arrête, on renonce, finalement, à ce fantasme de toute puissance ou de contrôle. Et du coup, c'est comme si le renoncement permettait l'émergence du désir, la réalisation du désir, et ça marche.
Et en même temps, j'imagine qu'on est en train de beaucoup culpabiliser certaines femmes qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de maîtrise là-dessus. De dire, ben mais si en plus, c'est ma tête qui bloque. Alors, on parle de blocage psychologique chez la mère, mais est-ce que chez le partenaire, il peut y avoir aussi des blocages?
Alors, ça peut. C'est vrai qu'on parle beaucoup de blocage chez la mère, parce que c'est dans son corps que la grossesse ne s'inscrit pas. Donc c'est vrai que c'est souvent elle qu'on accable, la pauvre. Mais il n'y a pas beaucoup d'études sur les blocages psychologiques chez les hommes, mais il y en a sûrement, en tout cas sûrement des inconscients. Et il y a sûrement aussi, alors là par contre il y a quelques études, sur une difficulté parfois d'accordage de couple.
Oui, j'ai entendu beaucoup.
De compatibilité.
De compatibilité psychique, parce que médicalement parlant, il n'y a pas de problème chez l'un, chez l'autre, mais tel homme et telle femme, ça ne fonctionne pas. Par contre, avec un autre partenaire, ça peut fonctionner.
Dès qu'ils se séparent, les deux vont avoir des bébés.
Voilà, alors malheureusement, parfois, il y a des couples qui se séparent et en fait, avec un autre partenaire, ça fonctionne. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des blocages qui peuvent dépendre finalement du couple en lui-même et pas que de la femme ou que de l'homme.
Alors, on a reçu une question en vidéo pour vous d'Alexandra sur l'accompagnement psychologique de ces couples qui se lancent dans un parcours de PMA. Regardez. Oui.
Bonjour. Un parcours de PMA, au-delà de la souffrance physique, c'est avant tout une souffrance psychologique importante. Pour notre part, un parcours de 8 ans dans 2 centres successifs parisiens puis un centre espagnol, personne ne nous a jamais proposé de prise en charge psychologique intégrée. Pensez-vous qu'un tel suivi devrait être intégré de manière systématique et peut-être une condition sine qua non pour débuter un parcours en PMA? Merci.
Alors, moi, je pense que ça devrait être proposé systématiquement. C'est-à-dire que, alors, ça dépend beaucoup des centres. Il y a des centres où les psychologues sont vraiment intégrés à l'équipe qui accompagne les couples. Et à ce moment-là, on leur propose à la fois un accompagnement du processus, parce que c'est lourd, c'est difficile, c'est fragilisant, Et puis aussi de peut-être travailler un peu sur d'éventuels blocages inconscients. Bon. Et puis, il y a des centres où, par contre, il n'y a pas du tout de proposition. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que de toute façon, c'est vraiment un parcours qui est difficile. Et je pense que les couples, ils ont besoin d'être un peu contenus. Voilà.
Et accompagnés.
Donc moi, je prône plutôt une proposition un peu systématique. Et puis après, les couples, ils font ce qu'ils ont envie de faire. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. On ne les force pas.
On a une question de quelqu'un qui s'appelle Philo, qui vous demande quelles sont les raisons qui peuvent expliquer une infertilité alors que la batterie d'examen ne révèle aucun problème physique ni chez la femme, ni chez l'homme.
Alors c'est vrai que ça arrive en gros dans 25% des cas, des infertilités. On ne sait pas pourquoi, ce qu'on appelle des infertilités idiopathiques ou d'origine psychogène. C'est souvent, de toute façon, tout ce qui touche à la grossesse, au désir d'enfant, ça touche évidemment à son histoire personnelle, à son histoire intergénérationnelle aussi, avec éventuellement des difficultés ou des drames qui ont touché des grossesses, des bébés morts, in utero ou à la naissance.
Chez les grands-parents,
les parents, exactement, ça peut tout à fait... Voilà. Et puis, autour de la sexualité aussi, il y a des femmes qui ont pu subir des violences sexuelles et qui, du coup, ont du mal à être enceintes, par exemple. Bon, mais il y a beaucoup, beaucoup de raisons.
Alors ça doit être très dur de pas savoir, de pas comprendre.
Ben oui, c'est pour ça qu'on
se retrouve un peu seul avec soi-même en se disant...
C'est pour ça que c'est culpabilisant. Ouais.
C'est pour ça que c'est très culpabilisant et c'est pour ça que c'est important d'avoir des lieux où en parler, justement. En parler, travailler un peu tout ça.
Alors Valéria vous demande, lors d'une stimulation ovarienne, la sexualité devient utilitaire et très cadrée. Ouais. Auriez-vous des conseils pour lâcher prise, que le plaisir reste présent au sein du couple ?
Oui, alors c'est vrai que c'est difficile, parce que dans ces processus-là, voilà, tout est très protocolisé, et puis c'est le médecin qui vous appelle en disant « maintenant, c'est aujourd'hui ». Bon. Alors, autant que faire se peut, moi, je pense qu'il faut essayer, pour le couple, de retrouver des moments de désir et de plaisir. Et donc, ça peut passer par des choses très, très simples, très basiques. On essaye, on se dit, aujourd'hui, chérie, c'est bon. Donc, on prépare, il y a un petit décorum. On essaye de prendre du temps aussi. Par exemple, augmenter les préliminaires, si on peut. De s'habiller un peu différemment. Enfin, voilà, d'essayer vraiment d'aller à la source, de retourner à la source du désir et du plaisir.
Rita qui nous dit « Parfois, on entend que si ça ne marche pas, c'est qu'au fond, on ne veut pas vraiment. Ou alors qu'on y pense trop. Comment se protéger des remarques de l'entourage ?»
Alors, c'est une vaste question. Je pense que d'abord, c'est important d'essayer de choisir son entourage. C'est-à-dire que l'entourage, il est plutôt bienveillant en général. Il est parfois maladroit. Donc, quand même, toutes ces histoires de désir d'enfant, de difficultés, etc., c'est assez intime. Et je pense que le couple, il peut aussi réfléchir à de quoi il a envie de parler, jusqu'où il a envie de parler, et de pouvoir poser les limites aussi à telle et telle personne. On dit rien, on dit juste c'est difficile, et voilà. Et à d'autres personnes qu'on sent vraiment plus proche de soi, qui peuvent comprendre, qui sont moins maladroits, par exemple, eh ben on peut leur en parler un petit peu plus. Mais je pense que c'est vraiment au couple de choisir, et de faire un petit peu attention à qui il en parle et comment il en parle.
Pour se protéger même, c'est pas forcément une bonne idée que d'en parler à tout le monde, de dire à tout le monde, ça fait deux ans qu'on essaie, hors pas de
Noël. Tout le monde a son avis, tout le monde va lui dire, vous n'avez qu'à faire ci, faire ça, c'est dans ta tête. Enfin,
Ça vaut le coup, peut-être quand même aussi, de se poser la question ? C'est vraiment de faire une introspection, en disant est-ce que vraiment je veux un enfant ou est-ce que c'est parce que je suis conditionnée ? Est-ce que je veux vraiment un enfant avec cette personne ? Est-ce que
ça je pense que c'est important de se poser la question au départ.
C'est dur, c'est vachement dur.
Oui, c'est dur.
Parce que parfois c'est dans les tréfonds des tréfonds et il peut y avoir une forme de déni, j'imagine quand même.
Oui, c'est vrai.
Mais et alors le conseil pour les entourages qui nous regardent, c'est il y a des phrases à bannir.
Oui.
Et même ne serait-ce que alors le petit deuxième, il arrive quand ? Tout ça, il faut éviter ça.
Quand on le sent quand même, on sent que ça fait 2-3 ans qu'il y a un bébé, etc., et qu'il y a eu un enfant et puis qu'il n'y en a pas d'autre derrière, on essaye, en tout cas on ne le dit pas devant tout le monde le soir de Noël par exemple, on fait un petit peu attention aux circonstances et à la manière dont on peut dire les choses, mais c'est vrai que c'est des sujets encore une fois très intimes et très difficiles quand c'est compliqué.
Il faut être un peu subtil.
Marie
le cinquième, c'est pour bientôt.
Notez qu'il y a beaucoup d'écart. Tara vous dit, lorsqu'on ne parvient pas à concevoir un enfant, on ne supporte plus les annonces de grossesse autour de nous. Quelques clés pour que le couple ne s'isole pas.
Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas, effectivement, en tout cas, s'isoler de tous les copains ou les frères et sœurs, etc., qui ont des enfants au fur et à mesure, quand on a une trentaine d'années et qu'on, voilà, qu'on a des amis, des frères et sœurs, de la famille qui ont des enfants. Donc, je pense que là aussi, c'est important d'être assez authentique et de pouvoir dire à son frère, à sa sœur, à sa copine, quand je viens chez toi, quand on passe un week-end ou des vacances ensemble, c'est un peu difficile pour que les gens comprennent, hein, entendent la souffrance des couples. Et puis, et d'ailleurs, très souvent, en fait, l'entourage est assez subtil quand même, et peut proposer aux membres de couple d'être parrain d'un enfant, par exemple. Et donc, on voit des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Très souvent, ils sont parrains ou marraines d'enfants, d'amis ou de frères et sœurs. Et ils développent, du coup, des relations avec des enfants qui sont très importantes. Hein, qui ne pallient pas complètement leur désir d'enfant, mais quand même, hein, y a des choses qui peuvent se faire. Et puis aussi, avoir des enfants, c'est des contraintes, quand même. Hein. Et donc, quand on n'a pas d'enfants, on peut faire des tas de choses que les couples avec enfants, que les familles ne peuvent pas faire. Oui. On peut voyager, on peut faire des tas de sports bizarres, aroïdes, etc. Et c'est important de positiver ça aussi, de valoriser ces activités-là.
C'est ça, la liberté quand même que ça peut faire.
Bah oui, quand même.
On m'a dit que parfois les hommes refusaient de faire des spermogrammes pour savoir si le problème venait d'eux. Est-ce que vous l'avez constaté aussi, ça?
Alors, dans ma pratique, pas tellement. Je pense que c'est très difficile quand même, parce qu'effectivement, en tout cas, l'échec d'une grossesse dans un couple, pour l'homme, c'est vécu comme vraiment une atteinte à sa virilité. C'est extrêmement difficile, extrêmement... Alors, c'est dur pour les femmes aussi, mais pour les hommes, il y a quand même quelque chose qui les atteint au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'aller faire un spermogramme pour qu'on regarde si ces spermatozoïdes sont de bonne qualité, s'ils sont vifs, pas vifs, etc., c'est assez difficile. Donc, c'est possible qu'il y ait des hommes qui refusent. Bon, en même temps, s'ils sont vraiment dans un désir d'enfant avec leur partenaire, je pense que de toute façon, il faut passer par là.
Hein. Mmh.
Kim. Va, Yasmine.
C'est dur, hein. De toute façon, c'est des choses difficiles. Hein,
oui, c'est dur.
C'est dur, même si a priori, c'est moins contraignant. Je veux dire, le test du spermogramme est a priori moins contraignant pour l'homme,
que tout ce que vit la femme
derrière,
bien
sûr.
C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que, entre guillemets, pour l'homme, c'est moins difficile et moins contraignant. Enfin, le parcours est moins difficile.
Enfin, même si on m'a déjà raconté les spermogrammes, j'ai jamais eu à en
faire. C'est pas très fun.
Non, on se retrouve dans une salle toute blanche avec un vieux porno des années 80.
Ouais, c'est pas très fun.
Bon courage.
C'est pas très fun.
Bref, pardon.
Non, mais d'accord.
Bon, et bien, Yasmine a regrogné.
Elle imagine.
Alors, bon, on va passer à la question de Kim. Après 5 ans de PMA sans enfant, un parcours épuisant, nous nous sommes séparés. Comment ne pas laisser ces épreuves fragiliser le couple?
Alors ça, c'est une question très importante, parce que c'est vrai, moi, quand je vois des couples qui ont traversé comme ça des années de PMA, je leur dis, et qui sont ensemble, ils sont vraiment devenus très forts, quoi. Leur couple est vraiment très solide. Je pense que la clé principale, c'est le dialogue dans le couple. C'est-à-dire que, et quand je dis dialogue dans le couple, c'est que chacun des membres du couple puisse dire ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, ses difficultés, ses souffrances, sa colère, etc. Et qu'il écoute l'autre aussi, hein, que chacun puisse dire et comprendre du coup, parce qu'on se comprend mieux quand on se dit les choses quand même. Et puis, si c'est quand même très difficile, ou si par exemple, c'est vraiment un membre du couple qui est impliqué dans l'infertilité et qu'on peut lui en vouloir beaucoup, qu'on peut être très en colère, alors que le pauvre ou la pauvre, c'est pas de sa faute. Hein,
Mais c'est humain,
on peut beaucoup lui en vouloir. À ce moment-là, on essaie de choisir un endroit, c'est une psychologue, par exemple, ou un psychologue, où on peut justement déposer sa colère, déposer sa frustration, déposer toute sa souffrance, et du coup, ne pas la projeter sur son partenaire.
Hein. Oui,
mais je pense que vraiment, la clé pour essayer de tenir dans ces moments très, très difficiles, c'est d'essayer de se parler et d'écouter l'autre aussi.
Ophélie vous demande, quand on n'arrive pas à tomber enceinte, à partir de quand on consulte?
Alors, les médecins disent quand même qu'il y a, une vraie limite d'âge qui est 34, 35 ans, où là, on sait très bien que la fertilité chute beaucoup. Donc là, il ne faut pas attendre trop longtemps. Hein. On attend 4-5 mois, mais maximum. Avant, je pense qu'il ne faut pas non plus se précipiter dans des parcours de PMA qu'on vous propose en fait maintenant de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Je pense qu'il faut d'abord apprendre à se connaître. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas le mécanisme de leur corps, la période d'ovulation, etc. Donc on peut déjà aller voir une gynécologue qui vous explique.
Ou une sage-femme, Anna Rouen. Elle a beaucoup
de
stress, de couple qui faisait très peu l'amour.
Aussi.
Tout simplement, en fait.
Ouais, bah
oui. Il fallait juste réexpliquer.
Effectivement, avoir un enfant, ça commence par faire l'amour, hein, et de manière assez vivante.
Et régulière et enthousiaste.
Exactement.
Non, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui, Yasmine?
C'est le sujet.
Le sujet, en fait, ça doit résonner en elle.
Il y a un truc.
Ça me rappelle quelque chose.
Axel vous dit, je suis le papa d'un bébé miracle.
Olivier
moi
de Kersauzon.
c'est ça, c'est tout à fait moi, quand on y pense. Je suis le papa d'un bébé miracle moi aussi. N'est-on pas davantage des parents fusionnels, plus anxieux aussi, dit Axel.
Alors, fusionnel, je ne sais pas, anxieux, souvent. C'est-à-dire que ce bébé qui est attendu depuis des mois, des années, c'est vraiment, ce bébé miracle, c'est un bébé trésor, c'est un bébé extrêmement précieux. Et donc, du coup, d'abord, la grossesse est souvent plus difficile. D'ailleurs, c'est ce que disait Cécile, hein, qu'on a du mal à se réjouir au début, qu'on est très anxieux, qu'on a peur que ça lâche à toutes les étapes. Enfin, voilà. Donc, on a des parents quand même souvent plus anxieux. Mmh. Et puis, le bébé, il est souvent très idéalisé. C'est-à-dire que ce bébé trésor miracle, c'est un bébé idéal, sauf que en fait, quand il naît, c'est un bébé tout à fait comme les autres, qui ne dort pas la nuit, qui pleure beaucoup, qui peut faire des colères. Et donc, il peut y avoir aussi des difficultés un peu par rapport à tout ça. Donc nous, en tout cas, on est, nous, les professionnels, en postpartum immédiat et en voilà, les quelques semaines ou les quelques mois après, on est un petit peu plus vigilant sur ces grossesses issues de PMA. Bon, en général, quand même, ça se normalise voilà, dans la première année. Hein. Mais c'est vrai qu'on a des parents souvent un peu... souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais souvent un petit peu plus anxieux.
Kersauzon.
Kersauzon, he's back. Vous voulez que je vous affrète un bateau?
Bah, pourquoi pas? Non, mais vous me dites, c'est peut-être en fait ma nouvelle vie qui m'attend.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un signe.
Imaginez-moi.
Elle va partir, cheveux bouclés dans le vent, voilà, vers les Açores.
Avec les 6 enfants.
Une dernière question de Sylvia. Pourquoi peut-on tomber enceinte très facilement pour le premier, par surprise même, et pour le deuxième, 2 ans après? C'est le parcours du combattant.
Alors ça, donc, c'est ce qu'on appelle les infertilités secondaires, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grossesse, éventuellement une naissance, et puis la deuxième, ou la troisième d'ailleurs, hein, est compliquée. C'est souvent, les spécialistes disent souvent qu'il y a un effet trauma, éventuellement, entre justement les deux grossesses. Alors l'effet trauma, ça peut être une grossesse extrêmement difficile, un accouchement traumatique, il y en a, un postpartum difficile,
ou un postpartum,
voilà, avec une dépression du postpartum très, très forte, très sévère.
Ou même une grande fatigue.
Une grande fatigue aussi. Bon, c'est la grande fatigue, c'est moins, enfin bon, possible, okay. Hein, mais
non, mais j'ai dit une connerie, on peut le dire.
Non, mais bon, il faut quand même que ça soit quelque chose d'assez fort. D'accord. Non, mais et puis ça peut aussi être tout le parcours obstétrical, c'est-à-dire une femme qui a vécu une IVG ou une interruption médicale de grossesse. C'est vrai que ça peut être difficile après.
Merci Florence de Wailly pour ce témoignage sur le bébé miracle que je n'attendais plus. J'espère que cet épisode vous a fait plaisir et vous a fait du bien. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. Production, podcast, France Télévisions, bien évidemment. Ciao tout le monde.